Bienvenue à l'émission Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi, votre animatrice, en compagnie de Sarah-Jeanne, ma co-animatrice.
Allô. Bonjour Naomi!
Et de Jeanne, qui est à la console. Donc aujourd'hui, à l'émission, nous allons explorer les liens entre les changements climatiques et les systèmes de santé, en portant une attention particulière sur le contexte québécois. Alors que, justement, on a déjà discuté des effets néfastes des changements climatiques sur la santé des individus dans un épisode précédent, on veut aujourd'hui se concentrer sur les manières dont la crise climatique affecte les systèmes de santé, mais comment aussi les pratiques actuelles dans les systèmes de santé aggravent eux-mêmes les changements climatiques. Donc, bien sûr, à l'émission, on va porter une attention particulière sur la manière dont cette interaction-là entre les changements climatiques et les systèmes de santé implique aussi des enjeux de justice climatique. Donc, pour en parler aujourd'hui, nous accueillons avec nous Martin Roberge, qui est infirmier clinicien à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec et candidat au doctorat en sciences infirmières à l'Université Laval. Donc, même si ses intérêts de recherche portent habituellement sur les soins palliatifs, il s'intéresse aussi parallèlement aux enjeux relatifs au changement climatique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il s'implique aussi au sein du regroupement Climat Santé Action, le collectif d'étudiants et étudiantes en santé de l'Université Laval, qu'on vous a présenté le plus en détail dans l'épisode précédent. Donc, bonjour Martin.
Allô.
Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, puis d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.
Donc, tout d'abord, première question, là, un peu plus personnelle. Comment en es-tu venu à t'intéresser aux questions climatiques dans ton domaine, celui de la santé?
Bien, en fait, j'ai toujours eu une sensibilité pour les questions environnementales dans mon quotidien. Mes parents m'ont quand même appris tôt les habitudes simples, climatiques, environnementales, d'économiser l'eau, de recycler ou me divertir sans avoir besoin de plein de biens matériels à pu finir. Pendant ma formation en soins infirmiers, autant au cégep qu'à l'université, je t'avoue que je prenais pas particulièrement attention à la présence ou à l'absence de contenus relatifs au climat et à la santé. C'est certain qu'on apprend de façon générale que la pollution de l'air ou la qualité de l'eau, ça a un impact sur les pathologies, mais on n'approfondit pas ces questions-là énormément. C'est surtout il y a 4-5 ans, peut-être, je dirais, que j'ai décidé de m'impliquer au sein du FRESC, qui est le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec, qui est un regroupement d'associations étudiantes en santé et services sociaux, qui a pour objectif de produire un mémoire annuel de recommandations pour le gouvernement, pour les établissements de santé ou les autres professionnels sur des sujets d'intérêt pour les futurs professionnels de la santé. Puis l'une des thématiques annuelle, c'était la santé à l'heure des changements climatiques. Fait qu'avec des collègues, on a décidé de participer à la rédaction des recommandations au nom de notre association étudiante. Puis je me suis rendu compte à la fois de tous les niveaux auxquels le système de santé est confronté aux effets des changements climatiques, puis de toutes les actions qui peuvent être mises en place par les professionnels de la santé pour limiter les effets des changements climatiques sur la santé. Puis c'est après ça que j'ai continué de m'impliquer sur des questions climatiques en parallèle de mes intérêts de recherche clinique, ce qui m'a amené à m'impliquer, entre autres, avec Climat Santé Action et même à participer à des projets de recherche en lien avec les changements climatiques.
OK, c'est vraiment intéressant. Puis par rapport aux apprentissages que tu as faits, est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer en quoi les changements climatiques affectent la santé des individus et aussi de quelle manière certaines personnes ou certains groupes sont affectés de manière disproportionnée par ces conséquences-là?
Oui, ben généralement, les gens qui ont davantage de vulnérabilité individuelle, qui sont pas capables de s'adapter aussi facilement à des transformations de leur mode de vie, c'est elles qui sont le plus touchées. On pense ici aux enfants, aux personnes âgées, toutes les personnes qui ont une situation de précarité financière ou sociale, les gens qui ont déjà une santé fragile par l'accumulation de maladies chroniques, cardiaques, respiratoires. Ces gens-là, ils ont beau vouloir s'adapter aux répercussions climatiques dans leur quotidien, elles sont pas capables de pallier suffisamment par elles-mêmes. Si on prend juste l'exemple d'une personne âgée qui a des problèmes de mobilité puis des problèmes cardiaques, qui habite en ville, mais ça se peut très bien qu'elle habite dans une zone urbaine qui est dense, qui est un endroit qui est susceptible de développer un îlot de chaleur, qui a probablement une qualité de l'air qui est moindre parce qu'il y a beaucoup de circulation automobile ou que tout près, il y a des industries. Il y a peu de parcs à l'extérieur pour qu'elle maintienne son autonomie physique. Mais cette personne âgée-là, déjà à bout de souffle par son cœur qui pompe pas assez bien le sang oxygéné vers les poumons, ben elle est à haut risque de subir des problèmes médicaux associés à l'environnement. On peut s'attendre autant à une déshydratation marquée par les températures ambiantes élevées, une irritation de ses voies respiratoires, ce qui va l'amener à être essoufflée puis à tousser beaucoup à cause de la qualité de l'air qui est faible, à des coups de chaleur si elle sort dehors, elle fait un effort physique qui demande plus d'énergie à son corps en raison de la chaleur. Puis ben, cette personne-là, on va la voir arriver à l'urgence parce que le fardeau climatique sur sa santé est beaucoup trop élevé. On est chanceux, on habite dans une région où on a facilement accès à des établissements de santé, ce qui n'est pas le cas dans des pays en voie de développement ou dans des zones de conflits géopolitiques comme on en voit en ce moment. N'empêche que les impacts des changements climatiques sur la santé, ben ils restent présents. On fait face à une population qui consulte de plus en plus souvent, puis en nombre de plus en plus élevé pour des problèmes de santé physique associés au réchauffement climatique, mais aussi des enjeux psychologiques qui sont associés aux événements climatiques extrêmes. On a de plus en plus d'études, entre autres, qui s'intéressent à l'impact sur la santé mentale des changements climatiques. On se rend compte que ce sont pas uniquement les personnes qui subissent les inondations, les feux de forêt, par exemple, qui vont développer un trouble de stress post-traumatique associé au fait qu'ils ont perdu leur domicile, leurs biens matériels ou qui ont dû être relocalisés dans un autre milieu. Même les soignants puis les premiers répondants, eux aussi, qui viennent en aide aux individus touchés, ben, ils sont à même de développer des problèmes de santé mentale similaires.
Donc, ben justement, là, par ton exemple là, d'une personne âgée, on voit justement là, que les personnes les plus vulnérables au niveau de leur santé vont avoir davantage recours au système de santé ben, parce que les changements climatiques vont aggraver leur vulnérabilité. Mais donc, à ce moment-là, on peut en déduire que ben, les changements climatiques vont avoir un effet plus indirect sur les systèmes de santé parce que justement, ces personnes vulnérables-là vont avoir encore plus besoin du système de santé. Mais même, justement, tu parlais des personnes qui ont des problèmes d'éco-anxiété ou quoi que ce soit. Fait que c'est même pas juste des personnes qui sont plus vulnérables. C'est vraiment tout le monde qui est touché par rapport à ça. Mais donc, qu'est-ce que ce problème-là que tu nous expliques cause comme conséquence concrète sur les systèmes de santé?
Ben, admettons qu'on reprend l'exemple de la personne âgée, puis qu'on considère aussi le vieillissement de la population, qu'on pense aux personnes itinérantes qui n'ont pas le loisir d'avoir un milieu de vie qui est même juste un peu climatisé, aux familles qui sont évacuées de leur domicile avec les inondations de plus en plus nombreuses, ou les gens qui habitent sur un territoire où il y a davantage de feux de forêt, ben il y a un potentiel énorme d'individus qui pourraient avoir besoin de consulter puis avoir l'aide du système de santé. T'sais, ça, c'est juste un aperçu, mais on voit que ça provoque une augmentation du nombre de patients qui consultent à l'urgence, qui sont hospitalisés, puis qui nécessitent un suivi en communauté pour traiter leurs conditions physiques ou psychologiques, puis leur offrir aussi un accompagnement ou les aider à s'adapter au quotidien à l'environnement autour d'eux qui est devenu de plus en plus difficile pour autant le corps que l'esprit. Puis à travers tout ça, on a nos médecins, nos infirmières, nos travailleurs sociaux, nos psychologues, nos physiothérapeutes, en tout cas, nommez-les, qui doivent encore continuer de soigner puis de traiter la population, je veux dire, générale, parce qu'on a quand même des insuffisants rénaux, des personnes dépressives, des gens avec des handicaps, des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Tout ça, ben, ça vient s'ajouter puis créer une surcharge de travail énorme pour le personnel de la santé et des services sociaux. Puis ça oblige le système à se préparer à un afflux de nouveaux patients qui vont subir des contre-coups du réchauffement climatique qui s'accélère. Puis cette surcharge-là, on la voit pas tout le temps venir, je vous dirais. J'ai d'ailleurs vécu moi-même une situation qui m'a marqué l'été dernier. En juin, il y a eu beaucoup de feux de forêt, entre autres dans la région de Sept-Îles, qui ont causé des évacuations puis l'hospitalisation de beaucoup de gens qui étaient touchés par le feu ou la fumée. Puis pour libérer les lits de l'hôpital régional à Sept-Îles, il y a un plan de coordination qui a été développé puis qui impliquait de transférer des patients déjà hospitalisés là-bas vers les hôpitaux de la région de Québec. Fait que nous aussi, à Québec, on a dû libérer de façon un peu précipitée les lits d'hôpitaux. Puis moi, en tant qu'infirmier de liaison, ma job, c'est de planifier la sortie d'hôpital des patients en assurant que les gens reçoivent des soins à domicile par le CLSC, les transférer dans des centres de réadaptation ou dans d'autres endroits pour qu'ils reçoivent leurs soins. Donc, on était un samedi après-midi, puis j'ai été appelé vers 3h30 par la directrice de sécurité civile de l'hôpital puis par une gestionnaire qui était rentrée de garde de fin de semaine de façon imprévue. Puis j'ai été mis à contribution pour planifier des transferts de patients vers des milieux d'hébergement ou de réadaptation de façon accélérée, voire précipitée, pour nous permettre d'accueillir des usagers qui avaient besoin de soins en provenance de cette île. Je t'avoue que ça vient chambouler une charge de travail mm-hmm. quand d'une minute à l'autre, il faut que tu revoies tes priorités puis que tu collabores avec l'équipe de la direction pour réorienter des patients en contournant un peu des procédures habituelles, mais en t'assurant que tout le monde reçoit des soins sécuritaires puis que leurs besoins sont répondus. En soi, j'ai pas été impliqué dans le soin des patients qui vivaient des feux de forêt, mais c'est surtout pour te dire que à ce moment-là, ben, j'ai beaucoup pris conscience à quel point des événements climatiques comme ça, ben, ça peut avoir des répercussions sur les professionnels, même à des centaines de kilomètres, qu'il faut qu'on se prépare à toute éventualité, puis qu'à mon avis, il y a une sorte de grande collaboration, autant directe ou indirecte, entre les soignants, qui est nécessaire pour assurer le bien-être des populations.
Ouais, c'est quand même, ça doit être assez choquant comme expérience. Donc, j'imagine que les changements climatiques, bon, peuvent affecter les systèmes de santé, mais on sait aussi que les systèmes de santé ont une empreinte environnementale assez considérable. Ouais. Quelles pratiques ou activités du système de santé causent le plus de problèmes environnementaux, le plus de charges climatiques?
C'est assez paradoxal, cet élément-là, d'ailleurs. D'un côté, le système de santé il a pour mission de guérir la maladie, de soigner les gens, puis de prévenir l'apparition des problèmes de santé, mm-hmm. autant physiques que mentales. Mais d'un autre côté, les systèmes de santé, ben, ils font partie des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a un rapport de 2020 du Lancet qui a analysé les émissions des systèmes de santé de 189 pays, puis qui a déterminé qu'en général, ça représentait entre 1 et 5 % des émissions totales de gaz à effet de serre au niveau national. Puis au Canada, c'est 4,6 % de nos émissions qui sont produites par les systèmes de santé. On dit même que si les systèmes de santé, c'était un pays, ce serait le cinquième plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre.
Wow. C'est quand même assez fou.
Je vous cache pas, j'ai fait un petit peu de recherche avant le balado d'aujourd'hui, puis j'ai quand même appris beaucoup au sujet des sources d'émissions associées au système de santé. Il y a à peu près la moitié qui proviennent de l'utilisation des combustibles et de l'utilisation des sols. On pense ici à tout ce qui est l'énergie qui est nécessaire pour les chaînes de production de matériel médical ou pour construire tout simplement nos hôpitaux puis les autres infrastructures. On a environ 22 % qui proviennent de l'agriculture. Mais là, vous allez me dire, on cultive pas grand-chose dans nos hôpitaux, me semble.
Effectivement.
Ouais, c'est que ça englobe toute la production alimentaire pour les plateaux repas, les cafétérias, mais aussi, mettons, l'utilisation de la gélatine qui est extraite des tissus de porc pour créer des gélules, des capsules de certains médicaments, ou encore toute la recherche en laboratoire sur les animaux qui est considérée dans le calcul. Puis on a aussi d'autres émissions associées à tout ce qui est des besoins énergétiques des établissements, à l'utilisation des emballages de plastique pour le matériel médical à usage unique, certains gaz anesthésiants aussi qui sont utilisés dans les salles d'opération, qui sont des gaz à effet de serre puissants. Fait que c'est un ensemble de plusieurs sphères de consommation, de production puis d'habitudes de vie qui font en sorte que les systèmes de santé, ben aussi rendent un petit peu la population malade, malheureusement.
Justement, ben merci, parce que c'est vraiment pas des informations qui sont connues du public, je pense. En tout cas, pour moi, c'est vraiment... c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui.
C'est nouveau.
Oui, exactement, surtout au niveau de l'agriculture. Et donc, ben justement, face à toutes ces problématiques-là que tu viens de mentionner, est-ce que les systèmes de santé agissent déjà, justement, pour s'adapter au changement climatique, pour réduire leurs activités polluantes, comme tu viens de le dire. Et si, effectivement, là, ces systèmes de santé-là mettent déjà en place des mesures, est-ce que celles-ci sont assez efficaces? Puis, est-ce qu'elles remplissent bien leurs objectifs?
Mm-hmm. Ben, d'emblée, ce qui est quand même dommage, c'est que malgré qu'on fait beaucoup d'efforts, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, il y aurait quand même eu une augmentation de 29 % des émissions de gaz à effet de serre par le système de santé entre 2000 et 2015, surtout associée au fait qu'on a une augmentation des besoins techniques puis matériels pour répondre à la population qui est en croissance, qui est de plus en plus malade, dans une société qui veut pas davantage axée vers l'aspect curatif que l'aspect préventif. Par exemple, toute l'innovation technologique, ça permet d'augmenter l'efficacité des procédés industriels, de réduire l'intensité ou la quantité d'eau nécessaire pour la consommation énergétique des hôpitaux ou le retraitement du matériel médical. Par contre, c'est pas suffisant pour contrebalancer les besoins associés au fait qu'on doit donner des soins de base pour une population qui est plus nombreuse. D'un point de vue organisationnel et gouvernemental, ben, il y a quand même certains incitatifs pour décarboner les biens et services. On utilise, entre autres, le coût social du carbone pour estimer les dégâts associés à l'augmentation des émissions de carbone, en incluant, entre autres, les maladies, avec les causes potentiellement environnementales dans le calcul des répercussions au niveau des émissions de carbone. Puis on dit qu'en 2019, on se réfère à environ 50 $ par tonne d'émissions de CO2, ce qui revient environ à 1,65 milliard de dollars par année associé aux émissions du système de santé canadien.
Okay.
Souvent, l'argument financier puis le fardeau sur les contribuables, c'est un levier important pour les décideurs pour les inciter à adopter des pratiques puis des procédés qui font qu'on a moins d'émissions de GES. Mm-hmm. On a aussi, en 2008, eu l'arrivée de la loi fédérale sur le développement durable qui a obligé Santé Canada à mesurer et à limiter son empreinte environnementale, entre autres par rapport aux émissions de GES et à la qualité de l'air. Puis chaque province doit maintenant produire un plan d'action ministériel aux 3 ans pour, en fait, avec un objectif de réduire de 40 % les émissions d'ici 2030. Malgré tout, je tiens quand même à dire que là, je parle sans connaître les moindres détails de toutes les initiatives de chaque établissement. Ce qui rend la tâche difficile, c'est que oui, les stratégies de transformation des systèmes sont nécessaires, mais on doit attaquer les émissions de carbone sur plusieurs plans puis réfléchir à l'interaction entre toutes les sphères. Fait qu'autant la gouvernance que l'énergie, les transports, la médication, la gestion des déchets, les finances, les pratiques cliniques. Ça prend des efforts qui sont coordonnés de plusieurs acteurs. Ça prend du temps, puis ça prend aussi un changement de mentalité auprès d'individus, puis de cliniciens, de gestionnaires qui se sentent des fois peu concernés par la crise climatique. En ce moment, on a un système qui peine, tu sais, qui a de la misère à garder la tête hors de l'eau, surtout avec les années pandémiques qu'on vient de vivre, puis qui axe beaucoup sur l'aspect curatif, comme je l'ai dit.
Mm-hmm.
Alors que la lutte au changement climatique, ça passe beaucoup par une vision préventive, une vision adaptative des conséquences sur la santé. Heureusement, on a quand même de plus en plus de professionnels de la santé qui sont conscientisés aux enjeux des changements climatiques sur la santé puis qui veulent contribuer aussi à l'effort pour limiter les effets sur les populations vulnérables.
Oui, mais par rapport à ce que tu viens juste de mentionner là, sur les professionnels qui seraient de plus en plus conscientisés, est-ce que tu penses que les professionnels de la santé ont un rôle à jouer dans la lutte climatique?
Assurément. C'est sûr que les informations que j'ai, je vous cacherai pas que c'est surtout axé sur les infirmières parce que je travaille là-dessus puis je baigne là-dedans. Mais je pense que plusieurs éléments s'appliquent aussi aux autres professions en santé et services sociaux. Que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde, les professionnels de la santé sont quand même bien positionnés pour agir face à la crise climatique, autant par la force de leur nombre, par leur crédibilité sociale, je vais le dire comme il faut, la confiance qu'on leur accorde aussi par la population, le fait qu'ils sont proches physiquement, voire émotionnellement avec les patients aussi, et par leurs rôles qui sont autant cliniques que des rôles de leadership assumés par des professionnels de tout genre dans le système. On dit souvent qu'on a un rôle qu'on appelle d'advocacy, de plaidoyer pour nos patients, qu'on est les mieux placés pour rapporter plus haut les enjeux que les patients, les populations vivent et subissent au quotidien en lien avec le réchauffement climatique dans ce cas-là.
Mm-hmm.
Les ordres puis les associations professionnelles, ils prennent aussi position en faveur d'une prise d'action des infirmières puis d'autres professionnels face à tout ce qui est l'obligation d'évaluer, de monitorer puis d'enseigner aux patients même le contexte des changements climatiques, en demandant aussi au gouvernement de prendre action immédiatement, le plus tôt possible, pour éviter les effets délétères de la crise climatique sur la population. On recommande même aussi d'intégrer de façon précoce puis transversale dans la formation académique des infirmières et d'autres professionnels les contenus en lien avec les changements climatiques et la santé physique et mentale, de parler des déterminants sociaux de la santé, des populations vulnérables, d'enseigner les causes des phénomènes climatiques, puis d'enseigner des compétences en prise de parole politique puis en approche de changement de comportement. Parce qu'on dit qu'éduquer les professionnels, ça a beaucoup d'impact positif. À la fin, ils ont une meilleure conscience des différents enjeux environnementaux. Ils posent davantage de gestes responsables dans la vie quotidienne. Ils ont une meilleure capacité de mettre en valeur les liens entre le climat et la santé. Ils font même des fois des plans d'action pour durabiliser leur propre milieu de travail.
Mm-hmm.
Personnellement, je crois qu'une profession n'est pas plus importante qu'une autre. C'est des efforts qui doivent être faits est déployée autant dans les cégeps, les universités, et que l'offre de formation continue aussi doit s'adapter pour s'assurer que les professionnels de la santé sont tous prêts à s'impliquer dans la lutte au changement climatique.
Mmh. Bien, justement, le fait que tu parles du rôle puis la capacité d'action des professionnels de la santé, et vu que toi, tu en es un infirmier, oui, clinicien d'ailleurs, ça doit aider un peu quand même avec l'éco-anxiété parce que tu ressens que tu as un sentiment... que tu as une capacité d'agir sur les changements climatiques, donc ça doit aider aussi un peu.
Ben, en tout cas, j'ose le croire.
Oui. Bon, au moins, si ça donne un peu espoir, c'est ça l'important. Est-ce qu'il existe d'autres solutions là, que les systèmes de santé peuvent adopter qui pourraient leur permettre de réduire encore plus leurs émissions de gaz à effet de serre et leur production de déchets polluants? Parce que là, tu en as nommé quelques-uns, mais on se rend compte que c'est pas assez actuellement.
Ouais, on a des vraiment beaux exemples d'initiatives locales qui ont été mises en place par des établissements de santé ou communautaires aussi pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. J'avais déjà vu dans les dernières années que le CHU de Québec avait obtenu une certification Aliment du Québec en raison de la proportion d'achats locaux pour les services alimentaires des hôpitaux. J'ai été heureux de lire dans les dernières semaines qu'il y a une initiative qui a été lancée par le MAPAC en 2020 pour augmenter la proportion de produits alimentaires locaux dans l'offre de services de plusieurs établissements, dont ceux de la santé, comme les hôpitaux puis les CHSLD. Les établissements se font accompagner par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour identifier des alternatives alimentaires locales pour les achats qui ont à faire en grande quantité, en considérant aussi l'aspect financier dans la balance. Puis, en date d'aujourd'hui, ce serait à peu près 90 % des établissements ciblés qui ont accepté de participer à l'initiative.
Quand même.
Oui, c'est intéressant. Puis, en début 2024 aussi, le CIUS de la Capitale-Nationale a mis en place une plateforme de covoiturage pour ses employés en mettant de l'avant tous les bénéfices associé à l'utilisation du transport collectif ou actif. Il note, entre autres, tout ce qui est de la facilitation pour attribuer des places de stationnement aussi. Une économie d'environ 2 800 $ par année en frais automobiles, fait l'essence, l'entretien des véhicules. Une diminution individuelle de 1,5 tonnes d'émissions de carbone par année. Une amélioration générale de la qualité de l'air. Une réduction du stress lié à la conduite. Est-ce que c'est efficace? Je ne le sais pas encore, mais c'est déjà un bon pas pour encourager les employés à adopter des meilleures pratiques de développement durable.
Effectivement.
Puis un dernier exemple aussi que je peux donner, c'est l'initiative du Maillon Vert. C'est une équipe qui a été créée en 2012 qui a pour objectif de conseiller les pharmacies communautaires dans l'adoption de pratiques éco-responsables. Ils offrent aux pharmaciens propriétaires puis à leurs équipes des conseils pour s'approvisionner localement dans les médicaments et les produits qu'ils vendent en pharmacie, dans la réutilisation des pots de pilules, des viales pour les médicaments, des meilleures pratiques aussi pour disposer des médicaments qui ont atteint leur date de péremption ou qui sont retournés par les patients. Puis ils disent que la première pharmacie qui a suivi leur parcours éco-responsable a diminué annuellement ses émissions de carbone de 20 tonnes, qui ont éliminé 33 000 sacs de plastique, qui ont économisé 75 000 litres d'eau et fait des économies de 30 000 $, ce qui est pas rien, je vous dirais. Ces exemples-là, ils montrent qu'il faut mettre en valeur les projets locaux parce que les retombées sont concrètes. On valorise le leadership des professionnels qui ont des idées innovantes pour le bien de leurs patients et de la planète. Souvent, ces personnes-là, on va les appeler nos champions climatiques dans les milieux de la santé. Puis ces initiatives-là mettent aussi en valeur ce qu'on appelle le concept des co-bénéfices santé-environnement, soit tous les bénéfices directs locaux pour la santé, pour l'environnement puis pour l'intégration sociale de toutes les stratégies climatiques. Puis la mise en valeur de ces co-bénéfices-là, c'est souvent considéré comme un levier pour dépasser toutes les barrières individuelles ou des organisations au changement des pratiques ou d'habitudes de vie.
C'est vraiment intéressant de voir ces pratiques institutionnelles-là qui, en soi, sont pas super compliquées. C'est créatif. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'il y aurait aussi des changements dans l'offre de soins offerts à la population là, dans le système de santé qui pourraient aider à la lutte climatique?
La bonne nouvelle à travers tout ça, j'en ai nommé déjà quelques-unes,
généralement,
c'est qu'il y a un consensus chez les professionnels de la santé qui considèrent que les changements climatiques, c'est un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu de santé. Ce qu'il faut faire aussi, c'est s'impliquer dans les pratiques de gestion, d'aller voir les gestionnaires ou les gens à la direction des établissements pour qu'ils soutiennent les initiatives individuelles et qu'on mette en valeur les plans de transformation, les pratiques organisationnelles, tout ce qui est fait localement, il faut que les autres le voient aussi.
Mm-hmm.
Ces gens-là, dans la direction, ils vont aider à offrir des ressources autant matérielles, humaines, financières que communicationnelles aux employés engagés à transformer leur milieu. Puis toutes ces démarches-là, bien, doivent se fier sur des données scientifiques, des données fiables, détaillées, pour comprendre c'est quoi les activités ou les procédés à la source des grandes émissions de carbone. Puis c'est aussi à partir de ces données-là qu'on va voir l'efficacité des plans d'action qu'on met en place. La transformation, ça implique aussi parfois de réfléchir à un niveau macro, à la façon dont on organise en général l'offre de soins à grande échelle. Par exemple, de passer d'une approche qu'on dit hospitalo-centrée ou pharmaco-centrée vers une approche communautaire de prévention.
Mm-hmm. Oui.
Ça peut se décliner en mettant en valeur des pratiques de télésanté, en valorisant la capacité d'autogestion de la maladie chez les patients, en développant des programmes d'accompagnement des personnes de la communauté dans tout ce qui est rapport au changement des habitudes de vie. Ça demande probablement de réimaginer la valeur des soins, ça veut dire de revoir les aspects de coût-bénéfice d'un traitement ou d'un examen d'un point de vue environnemental, par exemple. Puis dans cette perspective-là, ben, ça devient plus avantageux d'axer sur le pouvoir d'agir de la personne, sur les ressources de pair aidance, sur la prévention puis la réduction des méfaits. Puis je dirais, ben, faut être convaincant pour justifier ces nouvelles approches-là,
ouais.
Puis s'entourer d'autres collègues qui croient vraiment qu'on peut faire un changement dans le système de santé.
Oui, ben merci de mettre en lumière là, toutes ces alternatives-là, parce que c'est vrai que, ben, justement, comme tu en parles, la perspective hospitalo-centrée, ouais. Pharmaco-centrée, c'est une réalité, ben, pour les patients, comme patientes comme nous sommes. Donc, ben, c'est ce qui met fin là, à notre émission qui portait sur l'interaction entre les changements climatiques et les systèmes de santé. Donc, merci beaucoup à toi, Martin, d'être venu parler des expériences concrètes, d'actions concrètes qui peuvent être mises en place dans le système de santé. Donc, merci beaucoup pour cette belle discussion enrichissante. On rappelle là, que tu es infirmier clinicien à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, candidat au doctorat en sciences infirmières de l'Université Laval et finalement membre aussi du collectif Climat Santé Action.
Tout à fait.
Donc, finalement, merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être à l'écoute dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!